Dieu nous aide et nous inspire. Donc je commence par demander pardon aux personnes qui ont été déçues le 21 novembre, parce que j'aurais dû faire court, je n'ai pas pu, j'étais en Roumanie, et donc voilà, donc c'est des gens que ça a certainement dérangé, et donc voilà. Et donc j'ai choisi de reporter à ce soir ce que j'avais prévu pour le 21 novembre. Donc je crois que ça a été mis sur le site de la métropole. Donc tout le monde a pu voir que quel était le titre de la conférence de ce soir. Je rappelle aussi à mes amis qui sont peut-être en ligne ou qui écoutent que je reçois des messages sur 06 60 20 41 64 et que je reçois également par email sur marcantoine.costa9.fr. Voilà, pour ceux qui veulent signifier leur présence et ou intervenir. Enfin, j'essaie de regarder mon appareil de temps en temps. Voilà, donc, moi personnellement, au fond, j'ai toujours envie de parler de ce qui m'intéresse. C'est un petit peu égoïste, mais c'est évidemment motivant pour moi en tout cas. Et ce qui m'intéresse, c'est en acceptant de faire ce cours sur la liturgie, ou peut-être plutôt sur la théologie de la liturgie, en fait, c'est-à-dire le sens de la liturgie, ce qui m'intéresse, c'est de voir, en fait, ce qu'il y a d'universel dans la vie liturgique, et ce qui est la base, au fond, la racine de tout cela, de notre culte chrétien, et particulièrement notre culte orthodoxe, et de la conception que nous avons dans l'Église orthodoxe, en particulier du culte et de toute la vie liturgique, sacramentelle et donc rituelle aussi, la place du rite. Donc j'avais la dernière fois, ça remonte à un certain bout de temps, c'était le 17 quelque chose, le 17 octobre 2013. Et donc j'ai envie de reprendre, de renouer un petit peu avec ce que j'avais présenté à ce moment-là. Ça avait porté essentiellement sur la question du rite. Donc je me rappelle que nous avions expliqué un petit peu le sens du mot, mais je m'étais au fond arrêté sur ce sujet. Donc je voudrais bien revenir là-dessus, parce que la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un rite, ce qui va avec c'est bien sûr pourquoi faire, est-ce que c'est important, est-ce que c'est indispensable, etc. Enfin, à mon avis il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la réalité rituelle qui donc forme une bonne partie, en tout cas, pas tout, mais une bonne partie de notre activité liturgique. Donc, ce que je voudrais, c'est un peu des généralités, mais c'est des idées de base. Je pense que ce qui est important d'abord, c'est que le vocabulaire lié au rite, et au mot même, le mot lui-même d'ailleurs, mais disons à tout ce qu'on dit du rite, généralement tourne autour de l'idée de loi et de stabilité. Donc on peut avoir même l'impression d'une loi contraignante. C'est vrai que le rite peut avoir quelquefois pris des sens péjoratifs dans le langage courant, donc parce que c'est justement répétitif, parce que c'est contraignant, parce que c'est obligatoire, parce que ça a l'air immuable. Enfin, souvent quand on l'opinion publique, si je peux dire, exprime souvent une conception négative à l'égard de ce qui est rituel. Mais on va voir ce que je voudrais montrer, c'est que c'est extrêmement important justement cette stabilité. Et c'est vrai qu'il y a une idée de loi dans le rite, pas étymologiquement, mais dans d'autres mots, par exemple en grec, c'est assez important. En grec, il y a un mot pour désigner ce que nous traduisons nous par rite, et c'est un mot qui est au pluriel, au neutre pluriel, c'est ta nomima. Alors nomima, ça s'écrit N-O-M-I-M-A, si vous voulez le transcrire en caractère latin. Et je ne crois pas l'avoir dit, mais si je l'ai dit, je le répète, parce que c'est important. Nomima, ça vient, c'est la même famille que nomos. Alors vous savez certainement les uns et les autres, vous avez fait un peu de grec, ou vous pouvez en faire en tout cas. Nomos, ça veut dire la loi. La loi. Mais le mot nomos est un mot très intéressant. Bon, il veut dire la loi. En général, toutes les formes de loi qui existent, les lois juridiques, les lois religieuses, les lois du cosmos, enfin, si vous voulez, tout ce qui correspond à des lois. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? C'est une réalité qui se répète et qui structure le réel. Sans loi dans le domaine cosmique en particulier, le monde serait une bouillie. Hein, le monde serait un chaos, serait une espèce de boue, et notre vie également, excusez-moi de vous le dire, s'il n'y avait pas des lois quand même pour gouverner notre vie, des lois religieuses, des lois morales, des lois spirituelles, eh bien notre conscience elle-même partirait dans tous les sens, se décomposerait. Donc il y a quelque chose dans l'idée de rite, comme dans l'idée de loi, qui est de l'ordre de la structure, du squelette, la charpente de l'existence et du réel. C'est pour ça qu'il y a des lois de gravité, de pesanteur, enfin, je ne les connais pas toutes. Il y a une quantité de lois que les physiciens de tous les temps ont découvertes et qui montrent que le monde dans lequel nous vivons est un monde structuré, qui est un monde dans lequel il y a une certaine présence du logos. Alors ça, je dis ça pourquoi? Parce que c'est la conception de certains pères de l'Église, surtout de Saint Maxime le Confesseur, que le monde dans la structure qu'il nous montre, qui montre aux scientifiques en particulier, et par les lois qu'il révèle, montre qu'il est marqué par le sceau du logos, c'est-à-dire de la raison, de la pensée divine. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Saint Maxime le Confesseur dit que qu'il y a le logos transcendant, qui est le verbe même du Père, le Fils unique de Dieu et qui s'incarne, etc. Mais il y a aussi, ce qui au pluriel se dit logi en grec, donc les logos, si vous voulez, les logos avec un petit L, qui sont toutes les lois, toutes les formes de rationalité que nous pouvons observer dans la création et en nous-mêmes. Et donc, c'est-à-dire que, oui, il y a un rapport entre loi et logique, il y a un rapport entre nomos et logos. Et ça veut dire que le rite, c'est pas si bête, si je peux dire. Hein. Le rite aussi, en tant qu'il est une loi, correspond à une certaine logique, mais dans le sens spirituel, pas seulement une logique démonstrative, si vous voulez encore que ce soit le cas, mais une logique dans le sens de structure. Le rite correspond à la logicité, comme dit... alors ça, c'est l'archimandrite Justin Popovic, qui est ce grand théologien serbe contemporain. Il parle de logocité, c'est-à-dire du caractère logique, enfin de l'affinité avec le logos que l'on repère dans le réel. Ceci, donc, oui, très très important. Et alors, également, dans le mot nomos en grec, donc qui se rapporte à nomima, qui veut dire rite en grec, dans nomos, il y a une étymologie très intéressante qui est le verbe en grec, qui est le verbe nemo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nemo, c'est un verbe grec, et nemo, ça veut dire paître. Par exemple, alors vous allez me dire, on vit tous en ville, ici personne n'a jamais vu de mouton, n'a jamais vu de berger, n'a jamais vu de... Bon, la plupart des gens qui vivent en ville ne connaissent le mouton que dans un emballage plastique à la surface du Monoprix, donc vous n'avez probablement jamais vu de mouton vivant, mais donc je vous explique ce que c'est qu'un mouton. je ne vais pas l'injure de vous le dessiner, comme fait Saint-Exupéry avec le Petit Prince. Mais donc, dans la Bible, il est constamment question de brebis, de troupeaux et de pasteurs. Et le Christ est appelé le pasteur, le bon pasteur. Et donc, la vie pastorale désigne aussi l'activité de nos ministres, évêques, prêtres et diacres, d'ailleurs aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la pastorale? Ça consiste à gouverner, à guider et à nourrir un troupeau qui nous est confié, et qui est en plus un troupeau innocent, sans défense et vulnérable, parce que, comme vous le savez, les brebis sont des animaux qui sont extrêmement gentils, et qui ne mordent pas, qui subissent beaucoup de choses de la part des hommes, en particulier la cruauté et des formes de boucherie assez honteuse dont on a malheureusement encore l'écho de nos jours. Donc là, c'est vraiment l'animal vulnérable il est à la merci des autres. Mais le pasteur justement le protège. Et il le protège justement en lui donnant des lois. C'est pour ça que le verbe grec nemo, qui a la même racine que nomos, c'est un mot très très intéressant parce que ça veut dire paître. Paitre, P-A-I-T-R-E, en français. Mais évidemment, en français, ça marche moins bien, parce qu'il n'y a aucune affinité étymologique entre rite et paître. Je suis désolé, mais c'est pour ça que je vais chercher dans le vocabulaire grec, qui là est vraiment très, très, très intéressant. Ça veut dire que donc, il y a dans l'activité rituelle en général, en tant qu'elle est une loi, en tant qu'elle structure l'existence, il y a une dimension, comment dire, de pastorale, c'est-à-dire une dimension qui protège, qui guide et qui, au bout du compte, nourrit. Je pense qu'un rite est nourrissant. Il est nourrissant parce qu'il est une structure et parce qu'il a un sens. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, je pense. Ce qui nous nourrit dans un rite, c'est ça. C'est sa signification, pas seulement intellectuelle, si vous voulez, mais sa profondeur symbolique qui touche même notre inconscient et qui nourrit notre âme. Alors nous sommes nourris, je pense, nous sommes nourris par les rites. Enfin, en tout cas, c'est personnellement ce que je pense, et ce n'est pas seulement une opinion personnelle, mais je pense que ça va avec le concept même de rite dans les sociétés les plus traditionnelles. Alors ensuite, en latin, parce qu'il faut prendre les mots, si vous voulez, qui nous viennent, en latin, le terme, qui est l'origine étymologique de notre mot, ritus, là, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu moins intéressant, parce que ça n'a que le sens de coutume, de forme, de règle. Et j'avais dit qu'effectivement, en roumain, il y a un mot beaucoup plus intéressant, qui est le terme de rinduial, qui désigne les cérémonies, les actes particuliers, les ensembles de cérémonies. C'est plus profondément latin. C'est vrai que ritus, c'est un mot un peu pauvre. Bon, ça peut désigner des cérémonies. En revanche, ce qui est intéressant, sachant que je l'avais dit, mais tant pis si je me répète, ce qui est intéressant dans le terme de ritus, c'est qu'on peut le faire venir du verbe réitérare, ce qui veut dire donc, qui veut dire réitérer. Je pense qu'il y a un rapport. C'est pas absolument scientifique ce que je dis là, hein, mais il y a une affinité sémantique entre rite et réitérer. Donc, un rite, c'est quelque chose que je fais ou que je refais. Et je vais dire tout à l'heure pourquoi je le refais. En fait, c'est parce que c'est Dieu, c'est la divinité qui l'a accompli en premier. Donc, je réitère un acte divin, un acte fondamental pour la création tout entière et pour ma propre vie. Alors, cet ensemble rituel, je le dis déjà maintenant parce qu'il faut quand même tendre vers la liturgie, il faut savoir que l'ensemble rituel dans l'Église chrétienne a fait l'objet d'une grande attention, d'un grand sérieux. On conserve, disons, les rites, on décrit la façon dont ils doivent être exécutés, surtout pour les rites fondamentaux de l'Église, évidemment, et tout ceci est conservé dans un ouvrage qu'on appelle le typicon. Alors le typicon, qu'est-ce que c'est? C'est le recueil de toutes les formes rituelles et toutes les cérémonies liées aux sacrements, liées aux événements, à la construction des églises, à l'ordination des évêques, à la façon de célébrer un baptême, enfin toute activité rituelle de l'Église est en principe consignée dans ce qu'on appelle le typicon, ou plutôt les typica, parce qu'il y a eu historiquement plusieurs versions du typicon. Nous, les orthodoxes, nous utilisons principalement un typicon qui est issu de ce qu'on appelle la Grande Église, c'est-à-dire de l'Église de Constantinople. Mais il y a des typicons différents suivant les églises locales. En latin, le terme qui serait employé, on n'emploie pas le terme typicon en latin, on emploie le terme c'est plutôt l'ordo des cérémonies, l'ordre des cérémonies. Mais ça existe aussi, hein, toutes les églises, qu'elles soient grecques, qu'elles soient latines, qu'elles soient syriennes, quelle que soit leur origine, toutes les églises ont élaboré des recueils des rites qu'elles emploient le plus fréquemment. Alors c'est très intéressant parce que d'une église à l'autre, on voit qu'il y a d'abord une unité profonde du rituel chrétien, fondamentale, une unité qui vient en grande partie du rituel hébraïque, bien entendu, et que cette unité du rituel chrétien, universelle, admet des variétés assez importantes. Et ça, donc déjà, je le dis, parce que je voudrais arriver à parler, dans une séance ou l'autre, de la diversité liturgique dans l'Église. C'est assez important de tout de suite être d'accord que le rite est important, qu'il structure, qu'il nourrit, etc., tout ce que j'essaie de dire, mais qu'il est très complexe. Il est très complexe et il admet des variétés dans ses formes, sans que ces variétés contredisent l'unité profonde l'unité rituelle profonde de l'Église chrétienne, par exemple, ou l'unité profonde même de l'héritage rituel juif ou indien. On pourrait prendre, après, il faudrait entrer un peu dans la spécialité, si vous voulez, mais on s'aperçoit que dans un monde comme l'Inde, par exemple, eh bien, il y a une unité rituelle fondamentale, il y a une diversité rituelle considérable suivant les provinces, suivant les époques aussi. Donc c'est assez important. Il y a une unité et diversité du rite, et ça n'affaiblit pas la puissance du rite. Alors, ensuite, un autre point important, c'est le fait que le rite, l'activité rituelle de quelque peuple que ce soit, hein, c'est pas spécifiquement chrétien, je fais exprès d'ouvrir largement les portes plutôt dans le domaine de l'histoire des religions, si vous voulez, l'activité rituelle d'un peuple, d'une nation, d'une culture, quelle qu'elle soit, est toujours liée à un espace et à un temps. Ça a l'air bête de le dire, si vous voulez, mais tout rite s'accomplit généralement dans un espace lui-même rituellement défini. Je prends des exemples. L'exemple le plus simple, c'est par exemple pour les chrétiens, le fait que depuis des temps immémoriaux, les chrétiens prient tournés vers l'Orient. C'est-à-dire que même dans le cas où on ne serait pas dans une église construite, et même si on prie dans la nature, par exemple, eh bien, un chrétien va prier en organisant l'espace par cette orientation solaire. Si on prend d'autres peuples, le peuple musulman, par exemple, il a une orientation de la prière qui n'est pas l'Orient, mais qui est la Mecque. J'ai vu que nos amis musulmans viennent de sortir une boussole électronique, de façon à ce qu'on a la direction de la Mecque partout où on se trouve à tout heure du jour. Donc c'est pour vous dire, mais c'est intéressant parce que si on prend le monde islamique, le monde hébraïque, le monde chrétien, partout on trouve ce même sens de l'organisation, de la structure du réel. Donc c'est un espace, un minimum d'organisation qu'on va appeler l'orientation. Alors pour nous, orientation, c'est tourner vers l'Orient, mais pour un musulman, ça va être l'orientation vers la Mecque, et pour un juif, c'est l'orientation, ça va être tourner vers Jérusalem, évidemment. Mais donc on voit bien que l'espace n'est pas banal. Voilà. Donc ça, c'est assez important. On touche à une idée qui est fondamentale, c'est qu'au fond, le rite, ou la mentalité rituelle, si vous voulez, c'est une mentalité qui fait échapper le réel à la banalité, qui fait échapper le réel à la platitude et au non-sens. Donc c'est une activité qui sacralise le réel. Parce que la différence entre un réel plat et sans signification et un réel signifiant, c'est justement la différence entre la sacralité et la profanité. Alors ça, derrière l'idée de rite, il y a forcément la dualité sacrée profane. Alors je dirais, en parlant de la liturgie chrétienne, je dirais que cette dualité sacrée-profane n'est pas absolument vraie pour l'expérience chrétienne, mais elle est vraie pour toutes les autres civilisations. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. Donc le rite est ce qui fait passer, qui fait entrer le réel dans la dimension sacrée. C'est pour ça qu'on dit que le rite va avec la consécration. Le terme de consécration est absolument fondamental. Un espace orienté, même si c'est uniquement tourné vers le soleil qui se lève, c'est un espace qui a déjà une forme consacrée. Ce n'est pas n'importe quel espace. Ce n'est pas un espace banal. Et on est déjà en dehors de l'arbitraire et du caprice. C'est-à-dire que l'être humain lui-même, en admettant cette consécration de l'espace, se libère et est libéré du comportement capricieux, de la fantaisie, de l'arbitraire et d'une certaine façon des passions. C'est assez important. Donc finalement, la consécration, elle consacre une réalité comme l'espace, mais elle a un effet purificateur à l'égard de la personne qui admet cette consécration ou qui l'exécute. C'est-à-dire que je me consacre moi-même en consacrant l'espace. C'est quelque chose qui se structure chez moi parce que j'ai pris cette orientation-là pour la prière au lieu de me tourner n'importe où. Alors ceci est très important parce que ça forme un peu le contenu de certains de nos débats avec des croyants qui seraient libéraux, progressistes, modernistes, etc., qui au fond, eux, ont tendance à relativiser tout cela en disant qu'au fond, rien n'a d'importance. Et nous, les gens plus traditionnels, disons, nous pensons que ça a de l'importance, et les choses ont un sens et correspondent à un besoin de structure. Donc il y a un espace structuré, tout le monde sait ce que c'est qu'un espace structuré, ce qu'on appelle un temple, au sens le plus général du mot. La catégorie de temple inclut, bien sûr, les formes hébraïques correspondant à ce mot, ça inclut une mosquée, ça inclut un temple bouddhiste, hindou, tout ce qu'on veut, évidemment, ça inclut une église. On est bien sûr, on sait très bien ça. Et ce qui est très intéressant dans le mot temple, c'est son étymologie en latin. Alors, le mot temple en latin vient du grec temno, et temno, ça veut dire découper. Découpé, je pense qu'on retrouverait le mot dans certains vocabulaire médical, où je pense qu'on va pouvoir retrouver ce mot-là. Bon, bref. Donc, on découpe la consécration, c'est aussi un découpage pour ce qui est l'espace, pour ce qui est l'espace du temple. On découpe un certain espace, il n'est pas seulement orienté, mais on le délimite, on lui donne une périphérie, soit circulaire, soit carrée, généralement carrée d'ailleurs à la base. Mais il y a également des temples qui ont été construits directement sous forme circulaire. Bien, on découpe un espace, et c'est cet espace découpé qui est l'espace consacré, mis à part, et il est mis à part pour quelque chose, pour justement une activité rituelle qui va s'y dérouler. C'est-à-dire que c'est dans cet espace consacré que va avoir lieu une activité elle-même consacrée, qui est une activité de type rituel, qu'on va appeler prière au sens large, encore que le mot prière n'inclut pas forcément une dimension rituelle, c'est un terme plus vaste. Donc il y a une idée de consécration de l'espace et du temps. C'est-à-dire que les deux dimensions fondamentales créées par Dieu, c'est assez important parce qu'ici on rejoint l'activité même du Créateur. Ça m'échappe un peu, ce sont une réalité vraiment immense. Vous voyez, c'est-à-dire que l'idée que Dieu lui-même, en créant, a consacré. Dieu lui-même a donné des limites à l'espace et au temps. Quand nous lisons le livre de la Genèse, ou les premiers chapitres de la Genèse en tout cas, nous voyons que l'espace qui est donné à l'être humain au paradis est un espace délimité par Dieu, qu'on appelle le paradis. Il y a des fleuves qui coulent, il y a un Orient, il y a un Occident, etc. Ce n'est pas du tout un espace banal. L'être humain est arrivé dans un monde consacré par Dieu lui-même. Mais ce qui est très intéressant dans le cas de Dieu, si je peux dire, c'est que tout est consacré. Il n'y a pas de profane. Il n'y a pas de non consacré. Ce qui sort des mains de Dieu, si je peux dire, ou ce qui est produit par la volonté de Dieu, est totalement consacré, totalement structuré, totalement délimité et a une forme. C'est la différence entre le chaos, justement, et la structure. C'est vrai qu'avant la création, on dit, voilà, au début, il y avait une espèce de machin, je crois qui fait, et puis il y avait quand même l'esprit qui flottait au-dessus, enfin c'était quelque chose d'informe. Les Grecs ont appelé ça le chaos, ça c'est un mot grec, voilà, c'est un terme grec, mais enfin dans toutes les cosmogonies on trouve cette idée là moi je m'intéresse, j'aime beaucoup l'histoire des religions parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une grande unité dans l'expérience religieuse de l'être humain et qu'on voit bien que Dieu est le Dieu de tous, c'est très évidemment. Et donc effectivement, dans toutes les religions, dans toutes les cosmogonies, c'est-à-dire tous les récits de création ou d'organisation du cosmos, il n'y a pas toujours une création, quelquefois c'est simplement une organisation, mais il n'y a que dans la Bible que c'est vraiment création absolue, mais même dans la Bible, il y a cette idée quand même que la matière a pu être vaseuse, en quelque sorte, c'est-à-dire informe, et que c'est vraiment la parole de Dieu qui, non seulement, parce que Dieu crée non seulement la matière, mais il lui donne une forme. C'est intéressant, Dieu fait les deux choses. Il crée la matière et il crée la forme qu'il lui donne. Et il a donné une forme à l'espace qu'il avait créé, une des premières créatures de Dieu, c'est quand même l'espace, et il a donné une forme au temps, il a donné une structure au temps, il a ritualisé le temps, en quelque sorte. Donc il n'a pas ritualisé le temps, c'est-à-dire plutôt que notre activité rituelle à nous, reproduit l'action consacrante de la divinité quand elle donne au temps des limites. Le jour et la nuit, le soleil, la lune, etc. Tous ces signes cosmiques qui sont donnés dans la Bible et qui montrent que nous héritons d'un espace et donc d'un temps également consacré, mais nous l'héritons de Dieu avant même qu'on ait construit des temples, des lieux de prière. Mais à plus forte raison, il y a, comme dit le livre des Proverbes ou le livre de l'Ecclésiaste, je sais plus, il y a un temps pour tout. Il y a le temps de la prière et les heures de la prière. Dans la plupart des religions traditionnelles, on s'aperçoit qu'on ne prie pas n'importe quand, n'importe quelle minute. Il y a des heures pour la prière, des moments consacrés. Et donc le temps religieux, si vous voulez, est un temps qui a une forme et qui a une délimitation. Alors, vous savez que c'est resté dans la structure des offices chrétiens, hein, puisque nous avons les sept offices quotidiens, vêpres, complies, matines, primes, tierces, sextes et dones. J'espère que j'oublie personne. Bon, mais ce sont des moments, on appelle ça les heures. On dit les petites heures, ou les grandes heures, ou les heures royales. Là, par exemple, avant Noël, mardi matin, dans toutes les églises orthodoxes, on va célébrer ce qu'on appelle les heures royales. C'est-à-dire qu'on va célébrer les prières des heures, mais elles sont royales parce qu'elles comportent des lectures de l'Évangile. Elles ont une dimension profonde. Mais ce sont ce qu'on appelle les heures. Et ça, cette notion d'heure de prière, elle est universelle chez les chrétiens, aussi bien en Occident qu'en Orient, dans tous les pays que vous voulez. Donc ça vient de la Bible, ça vient du prophète David, ça vient du judaïsme, l'idée qu'il y a des moments pour s'adresser à Dieu. Et que ces heures correspondent à des positions de la lumière créée, et les chrétiens ont ajouté à ça, par exemple, le fait qu'on prie à 3h de l'après-midi, l'heure de nonne, et parce que c'est l'heure qui a été consacrée par la mort du Christ en croix. Mais donc il y a des heures, par exemple la communion eucharistique à Pâques, elle devrait avoir lieu, si on avait la force de le faire, elle devrait avoir lieu aux premières lueurs du jour, parce que c'est à cette heure-là que les femmes ont été au tombeau et qu'elles ont constaté que le tombeau était vide et toute la suite de leur témoignage. Donc les heures sont des heures précises. Alors maintenant, dans la pratique, et c'est là qu'il faut peut-être balayer devant notre porte, souvent dans beaucoup d'endroits, dans certains monastères, certaines paroisses, etc., on dit les heures quand c'est possible. Alors on se trouve avec des offices de vêpres à midi, enfin bon, parce que ça arrange, parce qu'on travaille après, ou je sais pas. Donc, mais ça, ce n'est pas très intelligent de faire comme ça. J'ai peut-être tort de dire ça publiquement, mais personnellement, je plaide beaucoup pour ça, pour que les offices soient célébrés pas seulement à l'heure, au sens où on commence pas en retard, mais à l'heure prévue. C'est-à-dire qu'un office de vêpres a à être célébré à la tombée de la nuit, enfin quand la nuit arrive, je sais pas. Voilà, vous la tombée de l'ennemi, c'est comme ça. C'est à cette heure-là, parce que c'est un office vespéral. Et même un office comme l'office de la liturgie des présanctifiés, j'en reparlerai, mais je prends quand même mes exemples déjà dans la pratique orthodoxe, l'office des présanctifiés est un office vespéral, qui est un office de vêpres dans lequel il y a la possibilité de communier. Ça doit donc être célébré au moment où la tombée de la nuit, oui. Donc il y a donc je dis ça pour donner des exemples, si vous voulez, de consécration du temps et de consécration de l'espace, et c'est ça qui crée le milieu. La consécration du temps et la consécration de l'espace, la consécration rituelle, la ritualisation de l'espace et la ritualisation du temps, c'est-à-dire que l'introduction d'une certaine de loi dans ce domaine-là, ou la reconnaissance de lois données par Dieu, c'est plutôt ça d'ailleurs, c'est plutôt la reconnaissance de lois qui ont été données par Dieu, ceci crée le milieu cultuel, le milieu religieux, et le milieu dans lequel les rites vont pouvoir être accomplis. Je viens de dire quelque chose de très important, je viens de dire, en me reprenant moi-même, que c'est la reconnaissance des lois données par Dieu. Ceci est extrêmement important, parce que c'est la base de l'activité sacrée, religieuse et rituelle, c'est-à-dire que La religion, ça ne dépend pas de nous. C'est pas nous les hommes qui avons inventé la religion. Ce n'est pas à la différence de ce qui nous est reproché par nos amis athées, non croyants, etc. ont pu écrire ou dire à des différents moments que voilà, tout ça c'est des inventions humaines, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'activité religieuse de l'être humain, dans quelque tradition religieuse que ce soit, il y a plus forte raison dans l'Église, qui est la plénitude de l'expérience religieuse de l'humanité, dans quelque milieu que ce soit, l'être humain reçoit de Dieu les directives concernant l'espace, le temps, la prière et les rites et la construction des temples. Et nous recevons de Dieu. Ceci a été exprimé beaucoup par Denis l'Aréopagite. Et c'est un peu la même problématique que ce que je disais l'autre jour en dogmatique, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'opinion sur la divinité. Nous recevons de Dieu ce qu'il nous révèle de lui-même et nous essayons d'en vivre. Et dans le domaine rituel, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas nous qui avons des idées comme ça de « tiens, si on faisait ceci, tiens, si on faisait cela ». Nous recevons de Dieu un monde structuré, un monde qui comporte des lois. Donc c'est assez important parce que déjà, on est dans une idée qui m'y est très chère, c'est que le rite correspond à une dimension qui exclut tout arbitraire. L'arbitraire, c'est vraiment quelque chose d'anti-traditionnel. C'est le monde du non-sens. L'arbitraire ou le caprice, c'est la perte du sens, c'est la perte du contenu, la perte de la signification, la perte de la lumière. Et on n'a jamais progressé dans la vie spirituelle et la connaissance de Dieu avec l'arbitraire, le caprice, la volonté propre. C'est pour ça que, par exemple, les pères de l'Église insistent tellement là-dessus. Donc, la base de l'ascèse chrétienne, c'est le retranchement de la volonté propre, c'est-à-dire justement de l'arbitraire et du caprice et de la fantaisie. Donc, il y a l'idée de consécration, et vous savez très bien que quand on parle de consécration de l'espace, consécration du temps, on fait allusion effectivement à un espace cultuel. Hein, il est clair qu'une église, le symbolisme d'une église traditionnelle, c'est-à-dire romane, byzantine ou arménienne, par exemple, tout ce qui sont à peu près la même famille, tout ça, on voit très bien qu'il y a une consécration de l'espace, et on voit très bien qu'il y a une consécration du temps également, puisque la plupart de ces églises qui sont orientées sont faites aussi pour recevoir, et c'est surtout vrai pour certaines églises romanes, pour recevoir la lumière à certaines heures du jour. C'est extrêmement intéressant. Une église orientée, une église romane vraiment bien construite, et bien quand le soleil se lève, à un moment il éclaire l'autel et à un moment il envahit l'église tout entière par la lumière qui est à l'avant de cet autel, de cette église. Et donc, ça veut bien dire que le temps lui-même est consacré par le bâtiment, dans le bâtiment. Mais bien sûr, là, dans cet espace, on trouve des objets consacrés, évidemment, des objets rituels. Je ne vais pas vous en faire la liste, vous voyez très bien. Il y a l'autel pour commencer dans une église chrétienne, mais toutes sortes d'objets qui servent au culte, qui sont consacrés. Il y a des personnes consacrées. Alors ça j'ai vu un petit peu, parce que c'est assez important, cette question-là. Oui, moi, je vais en parler au point suivant. Enfin, tout de même, dans la littérature classique grecque, par exemple, comme chez les latins, il y a tout un vocabulaire pour désigner des personnes consacrées. Hein, il y a toujours eu, même dans certaines civilisations, ça forme une caste très, très, très exclusive de personnes consacrées pour l'exécution des rites qui doivent être accomplis. Donc oui, il y a un ensemble, tout se tient, l'espace, le temps, les personnes, les objets et l'activité rituelle elle-même, ceci est cohérent. Le monde rituel est un monde de cohérence. Ça, c'est très très important, c'est un monde d'harmonie, d'unité. Bon, j'ai toujours envie de parler de la liturgie, évidemment, je retarde le moment d'en parler, mais on en parle forcément, que là, il y a une correspondance extraordinaire entre la célébration de la divinisogie selon saint Jean Chrysostome, par exemple, et l'espace consacré d'une église byzantine, et même d'une église romane, d'ailleurs, la plupart forte raison d'une église roumaine ou russe ou grecque, parce que la liturgie se déploie en fonction de l'espace organisé pour elle. Et j'ai fait d'autres, cette expérience-là, je me rappelle, au monastère Saint-Antoine, dans le Vercors, là-bas, c'était la consécration, je me rappelle très bien, la consécration de l'église et du monastère. C'est une très belle église que vous connaissez peut-être, qui est entièrement peinte à l'intérieur, qui suit un canon très précis de l'architecture traditionnelle. Mais ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est l'office de la consécration. Avec donc, les évêques qui étaient venus de Paris, je me rappelle le métropolite Jérémie en particulier, des évêques, des prêtres, les gars, tout le monde, tout ce qui compose l'assemblée de l'Église, c'est-à-dire évêques, prêtres, diacres, peuple, les quatre degrés en quelque sorte de l'assemblée chrétienne. Mais dans la prière liturgique, avec les déplacements, les encensements, les processions, les sorties, les entrées, les passages, il y avait une correspondance extraordinaire avec l'espace, ça collait, si je peux dire, avec l'espace, alors que c'était en mouvement, évidemment, et en plus, les vêtements liturgiques des célébrants, des officiants, reprenaient les vêtements liturgiques des pères qui étaient convoyés sur les fresques, et même il y a un moment, j'avoue, je ne savais plus très bien si l'évêque célébrant n'était pas sorti d'une de ces fresques. Vous voyez, on arrive à un moment où la cohérence entre l'espace consacré et l'action consacrée qui s'y déroule, la correspondance est telle que il n'y a plus tellement de différence. Oui, c'est une cohérence très 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 impressionnante. Bon, alors justement, ça me permet d'arriver au point suivant, qui est la relation entre le rite et ce qu'on appelle le sacerdoce. Je regarde parce que j'ai ici quelques interventions. Donc la relation entre le rite et le sacerdoce. Donc c'est la question, si vous voulez, de la compétence. C'est un mot très important, ça, la compétence. Qui est compétent pour accomplir un rite? Qui est compétent? En fait, écoutez, tout le monde ne l'est pas. Tout le monde ne l'est pas. Et donc la compétence rituelle n'est pas une compétence que l'on s'arroge. On ne dit pas, ah ben tiens, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, je vais bénir, je vais baptiser, je vais... Non, on ne s'arroge pas la compétence rituelle. Alors évidemment, ça pose des problèmes, parce que du coup, ça dépend dans quelle mentalité on se trouve. C'est vrai, dans une mentalité moderniste, tout le monde touche à tout le monde parle de tout, mais comme rien n'a de sens, rien n'a d'importance non plus, de toute façon, c'est une bête de bouillie, non, dans un contexte historique, en Europe occidentale en tout cas, d'une espèce de chaos culturel, une confusion, voilà, je cherchais le mot, hein, c'est une époque de confusion, qui n'est pas seulement une confusion morale, confusion des valeurs, mais une confusion du sens. Par exemple, par rapport à la mort, je veux à peine faire allusion à ce qui arrive, à ce qui se fait dans nos sociétés légalement maintenant, hein, la confusion par rapport à la mort, la confusion par rapport à la fécondité, la confusion par rapport à la sexualité, à la sexuation, Donc c'est un monde de confusion, mais un monde de confusion n'est justement pas un monde qui relève du rite, parce que le rite est fait pour éviter la confusion. Éviter la confusion. Alors, donc on arrive à cette question de la compétence. Qui est compétent? Eh bien, sont compétentes des personnes consacrées elles-mêmes. Ça, c'est clair. Et dans toutes les civilisations du monde, la compétence est donnée de façon rituelle elle-même à des personnes pour faire ce qui est à faire dans le cadre du groupe religieux correspondant. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de civilisations, les compétents du rite, si vous voulez, forment, comme je l'ai dit tout à l'heure, forment une caste séparée. Hein, ce qu'on a appelé les sacrificateurs en Israël et en Grèce aussi, il y a une expression, on appelle ça les sacrificateurs. Il y a eu les sacrificatrices aussi, il y a eu les prêtresses. Donc il y a eu dans toutes les civilisations, et il y a encore dans toutes les civilisations traditionnelles, des personnes compétentes pour cela. Alors ce qui est intéressant, c'est dans le cadre du christianisme, on va avancer quand même dans le contexte chrétien, dans le cadre du christianisme et de l'Église, la compétence est donnée aux baptisés. Et ça c'est très important, c'est-à-dire tout baptisé est compétent rituellement. Alors ça, c'est énorme, parce que c'est un élargissement de la compétence rituelle à l'ensemble du peuple croyant. Ce n'est pas tout à fait nouveau, d'ailleurs, mais c'est quand même, ça a été ratifié par la descente du Saint-Esprit, qui fait qu'en fait tout baptisé appartient au sacerdoce universel. Alors, pour être juste, il faut savoir que dans toutes les civilisations, même quelqu'un, une femme, un homme à la maison qui n'appartient pas à la caste sacerdotale, a quand même une compétence rituelle. Par exemple, en Inde, la femme à la maison offre le sacrifice du lait, de la lumière, même si elle ne fait pas partie d'une caste particulière. Donc en fait, cette compétence, je viens de dire qu'elle est, vraiment liée à des personnes consacrées, mais c'est plus vaste que ça. Il y a quand même, je pense, une espèce de compétence ouverte hein, et qui admet finalement d'autres personnes, peut-être pour des actions rituelles plus générales, plus simples ou même plus fondamentales. En fait, la question vient du point suivant, c'est que la compétence universelle dans le domaine rituel, elle date du paradis. C'est au paradis que Dieu a donné à l'être humain la compétence rituelle, qu'il l'a établie comme pontife de la création. Par exemple, en lui disant de nommer les animaux. Ça, c'est une activité rituelle et sacerdotale foncière. Donc finalement, partout dans les civilisations où on voit une certaine universalité de la compétence rituelle, de mon point de vue, ça date de cela. Et ça se rapporte à la compétence rituelle et religieuse, au sacerdoce universel qui était donné à l'être humain par Dieu dans le principe. Et c'est vrai que c'est au fond ça qu'on retrouve dans l'Église quand on dit que tout baptisé fait partie du sacerdoce du Christ. On retrouve ce sacerdoce adamique, si vous voulez. Oui, sacerdoce adamique, quelque chose de fondamental. Donc il y a vraiment dans l'Église, si vous voulez, une reprise de ce qui a été fondamentalement donné par Dieu dans le principe, et au fond jamais complètement oublié dans toutes les civilisations. Je pense qu'on retrouverait dans toutes les civilisations un reste assez important du caractère universel de la compétence. Mais généralement, effectivement, la compétence rituelle est spectaculairement exercée par un groupe de personnes, j'appelle ça une caste, ça n'a pas de sens péjoratif, mais ou un collège, par exemple en Grèce, il y avait des collèges sacerdotaux, à Rome également, donc des personnes qui faisaient que ça, qui vivaient d'ailleurs de leur activité rituelle dans le cadre du temple. Ça a toujours existé. Alors dans le cadre de l'Église chrétienne, c'est assez différent. Mais alors, ce qui est intéressant dans l'Église chrétienne, c'est qu'au sein d'une compétence universelle qui est celle de tous les baptisés, il y a d'autres registres d'activité qu'on appelle les ministères de l'évêque, du prêtre principal, enfin l'évêque, du prêtre et du diacre par exemple, qui sont des compétences spécialisées en quelque sorte, mais qui ne correspondent pas à un pouvoir, mais c'est simplement une compétence, c'est-à-dire que c'est à cette personne-là de faire telle chose. Comme chez nous à la campagne en France, c'était au père de famille de couper le pain. Vous voyez, il prenait un couteau, il faisait un grand signe de croix sur le pain, il le coupait, il le donnait aux enfants. Ça, on a vu ça à la campagne chez nous. Bon, mais c'était une compétence, ça c'est le père de famille, mais personne n'allait le faire à sa place. Et s'il ne l'avait pas fait, tout le monde lui aurait reproché. Alors, le père, qu'est-ce que tu fais? Tu nous le coupes, ce pain? Bon, et ça fait partie. Alors, ce sont des activités rituelles, informelles pratiquement, qui sont dans les civilisations, qui sont dans les familles. Je pense qu'on pourrait prendre des exemples un peu partout. Mais donc, il y a une idée de compétence. C'est quand même très, très, très important. Mais la compétence n'est pas un pouvoir. Il faut faire extrêmement attention, parce que dans les déviations rituelles, on a vu une transformation de la compétence en pouvoir, et en ce qu'on appelle globalement le cléricalisme, si vous voulez. C'est des formes abusives de l'exercice rituel ou religieux qui déforme en fait l'idée toute simple qu'il s'agit simplement d'une compétence. Et il ne s'agit pas du tout ni d'un pouvoir, ni même d'une autorité sur les autres. Mais donc c'est assez intéressant, par exemple la notion de hiérarchie, si on apprend chez Denis l'Areopagite ou autre, la hiérarchie c'est une organisation de la communauté ou du monde d'ailleurs, parce que la hiérarchie céleste, c'est une structure qui comporte des lois et qui comporte des compétences. Les compétences des séraphins ne sont pas les compétences des chérubins, ni des anges, etc. Vous voyez, c'est un registre de compétences. On peut appeler ça, si vous voulez, des fonctions aussi. Des fonctions. Une fonction, ça consiste à dire à quelqu'un, c'est à toi à faire ça. C'est ça une fonction. C'est ton travail de faire ça. Ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que les autres, ça ne veut pas dire que tu es plus grand que les autres ou que tu as pouvoir sur les autres, mais c'est toi qui fais ça. Alors, donc c'est une notion de compétence est extrêmement importante, mais il faut avoir conscience, parce qu'on va en parler dans la liturgie après, qu'en ce qui concerne l'Église chrétienne, cette compétence rituelle est universelle et ça devrait pouvoir se développer. Par exemple, si je prends les exemples dans l'expérience de l'orthodoxie, dans une famille orthodoxe lambda, si vous voulez, eh bien la compétence rituelle se voit. Par exemple, une femme ou l'enfant ou le père, généralement peut-être plutôt la femme, allume la lumière devant l'icône. Ça, c'est une activité rituelle, c'est un rite. Une femme, la femme, le père, l'enfant, quelqu'un de la famille allume un charbon et met de l'encens au moment de la prière. Ce sont des activités rituelles. Moi, je me rappelle, je prends mes exemples dans ma propre expérience, je me rappelle d'avoir été à Chypre et au moment de la bénédiction de la maison avec notre ami qui est prêtre là-bas, on est arrivé à la porte de la maison, cette famille chypriote, des gens très, très intéressants, très, très simples, très illettrés, profondément cultivés, hein, ce qui est le cas de un cas extrêmement intéressant. Et à la porte, la maîtresse de maison, la femme de cette petite maison très pauvre, qui devait avoir deux pièces, a accueilli le prêtre et elle avait allumé un charbon. Non, elle n'avait pas allumé un charbon, elle avait pris un charbon de bois dans la cheminée ou dans le four, et sur ce charbon allumé, elle avait mis, non pas de l'encens, parce qu'elle était beaucoup trop pauvre pour mettre de l'encens, elle avait mis des feuilles d'olivier séchées. Et donc, voilà, on a mis ça, et elle a présenté ça au prêtre, elle avait apporté aussi le pain, elle avait apporté aussi le sel. Et c'était la prêtresse de la maison qui se manifestait ainsi, et le prêtre a béni ça, et il est entré, etc. Et il me disait que chaque jour, cette femme faisait le tour de la maison avec l'offrande, non pas de l'encens, mais donc ces feuilles d'olivier séchées qui brûlaient, et elle parfumait l'ensemble de la maison en disant le psaume 50 tous les matins. Oui. Donc ce sont des activités religieuses, rituelles, mais qui montre la compétence de cette femme. C'est une femme baptisée, elle a la compétence que donne le baptême. Oui. Faire le signe de la croix, mais c'est une compétence aussi, c'est un rite, le signe de la croix. Je fais le signe de la croix sur moi-même, j'accomplis un rite. Ah, c'est un rite, ben oui, c'est un rite, ça a une forme, ça se répète, c'est régulier, ça a un sens, et ça donne une structure, et ça, plutôt ça dévoile la structure du temps, de l'espace, et ça dévoile la structure de ma propre personne également. Mais j'accomplis un rite. Et c'est vrai que ce rite du signe de la croix, il est lié à ma compétence de baptiser. Un non-baptisé ne fait pas le signe de la croix. Ben, il le fait s'il veut, mais ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, c'est dans le catéchuménat, autrefois, encore maintenant d'ailleurs, quand quelqu'un se prépare au Saint-Baptême, on lui transmet progressivement les compétences rituelles et principalement le signe de la croix. La signe de la croix, la vénération de la croix elle-même, la vénération des syndicaux, ça ce sont des actions qui relèvent d'une certaine compétence et qui relèvent de l'appartenance à l'Église. On vénère une icône quand on appartient à l'Église, parce qu'on a acquis de l'Église la compétence d'accomplir ce rite de vénération de l'icône. Parce que vénérer une icône, c'est un rite. C'est pas une habitude, ça procède pas des sentiments. Ça procède pas du folklore, ou à la rigueur, le folklore, c'est une chose très sérieuse, mais pas de gérer du folklore dans le mauvais sens du mot. C'est une activité rituelle, parce que c'est pas n'importe quoi, vénérer une icône. On fait deux prosternations d'abord, on embrasse l'icône, et on fait une troisième prosternation ensuite. La prosternation elle-même est précédée du signe de la croix. Enfin, c'est très, 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 très organisé. Le gestuel dans l'Église est un gestuel extrêmement rituel, extrêmement cohérent. Alors vous avez dit oui, mais c'est du formalisme et tout. Mais ça, on va en parler de ça. C'est un autre problème. Mais avant de parler du formalisme, parlons du sérieux du rite et du sens du rite et de la compétence rituelle. Ensuite, il y a Un autre point qui est extrêmement important, ce sont des généralités, mais plutôt personnellement très, très importantes, et encore, je suis loin d'épuiser la question, c'est la question de la permanence, de la stabilité, de l'évolution, de la créativité dans le domaine du rite. Ça, c'est une question très importante. C'est qu'avec tout ce que je viens de dire au préalable, donc on peut avoir déjà l'impression que le rite est absolument immuable et contraignant, et que du coup on ne voit pas très bien, on ne voit pas toujours en quoi il favorise la vie, on ne voit pas toujours comment il se garde à l'abri d'une certaine déperdition de sens. Je sais que j'ai discuté de ça avec mes amis protestants, j'aime bien mes amis protestants, et c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Un de mes amis très très engagé dans une paroisse de la région parisienne, et il me disait que justement eux ils sont allergiques à ce qui est rituel, alors qu'ils ont quand même des rites, mais enfin ils ont vraiment le moins possible allergiques, parce que justement ils sont hypersensibles au danger de la perte de sens, et que comme ils pensent que on risque de perdre le sens, de plus savoir ce qu'on fait, tomber dans le formalisme, du coup ben on ne le fait pas. Alors à quoi je lui ai répondu, vous avez parfaitement raison, mais il y a une autre manière de prendre le problème, c'est d'accomplir les rites en s'exerçant à les faire bien, en étant conscient de ce qu'on fait et en apprenant le sens de ce qu'on fait. C'est une autre façon de prendre le problème. Mais c'est assez intéressant. Donc la réaction anti-rituelle dans certains milieux protestants, pas tous, hein, mais dans certains milieux protestants, viennent du fait qu'ils ont perçu d'une manière aiguë et douloureuse d'ailleurs les formes de décadence dans ce domaine. Alors, enfin, si on part de la déchéance de quelque chose pour en tirer un argument contre cette chose-là, on n'est pas forcément parti sur la bonne argumentation. Ce qui est intéressant, c'est de prendre plutôt les choses dans leur essence et de voir là qu'est-ce qu'on en fait. Vous voyez, mais bien sûr, si vous savez, il y a beaucoup de domaines où on pourrait appliquer cette même réflexion. Donc ça pose quand même la question de la stabilité, de la relation entre stabilité et éventuelle évolution. C'est-à-dire, la question qui est posée, en fait, c'est y a-t-il évolution du rite? Y a-t-il créativité rituelle? Et y a-t-il aussi diversité dans le domaine rituel? Alors, bien sûr, la question, la réponse à ça, c'est une réponse positive, parce que simplement, on le constate, tous les historiens des religions, on va commencer par notre grand Mircea Eliade, puis d'autres, j'utilise beaucoup Eliade, mais également ceux que j'avais cités en bibliographie, Gérard van der Leu s'appelle « La religion dans son essence et ses manifestations ». C'est extrêmement intéressant, c'est un très gros livre, donc pas tellement s'embarquer dans la lecture, encore qu'on peut le lire avec l'index, en cherchant les mots qui nous intéressent. Et donc, en fait, ce que montrent les historiens des religions, c'est qu'il y a à la fois une permanence, une stabilité impressionnante à travers l'histoire, à travers les générations, mais en même temps qu'il y a une évolution. Alors, l'évolution du rite, elle se fait dans les deux sens, soit dans la disparition, c'est une forme d'évolution, hein, c'est-à-dire un rite devient de plus en plus dénué de sens, et il finit par tomber en désuétude, et il finit par disparaître, il ne se fait plus. Ou alors l'évolution se fait dans le sens inverse, il prend une forme nouvelle, il s'enrichit, il se développe, ou il devient, il devient plus important que les autres, il s'impose dans un ensemble rituel, il y a un rite qui va prendre le dessus sur les autres rites. Et donc il y a des formes d'évolution, et puis il y a des formes de créativité. Ça, c'est très intéressant, ça, que les rites qui sont transmis depuis des temps immémoriaux, mais aussi des rites nouveaux qui sont apparus, en particulier dans l'histoire de l'Église chrétienne. Alors, c'est assez important. Dans l'histoire juive, il y a des rites qui sont apparus avant ou après les déportations à Babylone. Donc il y a une histoire du rite. Et ça, il faut pas le nier, il faut pas le rejeter, et ça ne remet pas en question l'idée de permanence du rite. Ça veut dire que le rite est quand même une réalité vivante. Et ça veut dire aussi, du point de vue théologique, que si, tout à l'heure je disais que l'élément rituel, au fond, il appartient beaucoup à l'économie du logos, c'est-à-dire à ce qui est loi, rationalité dans la création. Il y a une action du Saint-Esprit aussi dans l'histoire. Hein, c'est ça, c'est l'interprétation que nous donne le Christ. Hein, c'est que l'histoire, la création, les sociétés humaines sont mues et enrichies et activées, si vous voulez, et par le Verbe, hein, c'est-à-dire et par des éléments de rationalité et de légalité et de ritualité, si vous voulez, et par des éléments, je dirais, énergétiques qui relèvent de l'économie du Saint-Esprit et qui comportent l'imprévisible aussi, la créativité, je viens de le dire, la surprise, l'événement et l'apparition de formes nouvelles. Alors je peux prendre quelques exemples, très, très simples, ceux qui me viennent à l'esprit, je ne veux pas être trop long et pas alourdir non plus cet exposé, mais par exemple dans le domaine, vous savez que l'ensemble rituel chrétien donc vient d'Israël, vient du peuple hébreu, vient du judaïsme. Nous sommes le produit du judaïsme. Nous ne sommes pas que cela, parce que nous sommes produits également de l'héritage des nations, c'est très très important, c'est-à-dire qu'il y a des éléments rituels qui viennent justement des nations, des autres peuples. Enfin, principalement, notre patrimoine rituel et culturel vient du judaïsme. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, il y a deux exemples. On peut citer l'office de vêpres que nous avons, les chrétiens, est un office qui reprend d'une manière fidèle, si vous voulez, un office juif, l'office de la lumière du soir. Bon, ben ça l'enrichit avec des prières, mais le fait d'allumer de manière rituelle la lumière à cette heure-là, ça c'est quelque chose qui vient de l'héritage juif et de l'héritage sémitique, mais particulièrement de l'héritage hébraïque. En revanche, on a un autre exemple, alors contraire, les chrétiens au concile de Jérusalem, et surtout l'apôtre Pierre et Paul, mais à plusieurs, donc on débattu de savoir si on devait conserver le rite de la circoncision, qui était fondamental absolument, qui reste fondamental pour les peuples sémitiques, aussi bien musulmans d'ailleurs que juifs, puisque c'est lié à l'alliance d'Abraham avec Dieu. Donc c'est la circoncision, c'est quelque chose d'absolument, on va dire que c'est sacré, mais évidemment c'est sacré, effectivement c'est un rite, donc c'est sacré, mais c'est sacré dans le sens psychologique même du mot, c'est-à-dire que c'est, si on touche à ça, il n'y a plus rien, quoi, parce que on se déconnecte complètement de l'héritage d'Abraham, on n'est plus des fils d'Abraham, etc. Enfin, c'est très, 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 très grave, au fond, dans une mentalité sémitique. Le fait de renoncer à ce rite-là, c'est gravissime. Et je le dis parce que vous avez certainement entendu dire que la communauté européenne essaie d'interdire en Europe la pratique de la circoncision pour motifs religieux. Donc, c'est tout un débat. Et bien, en fait, c'est très très grave. Il n'est pas possible que les communautés juives acceptent et se soumettent à cela. Enfin, je ne sais pas comment ils ont réagi, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Enfin, bref, donc, j'insiste sur l'importance de ce rite. Pourquoi? Parce que justement, les chrétiens au concile de Jérusalem ont décidé non pas de ne plus le faire, mais de laisser la liberté aux nouveaux venus, en particulier aux chrétiens qui viendraient des peuples non juifs. Alors ça a été un débat très 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 important. La première église chrétienne a failli éclater à cause de cette discussion-là. Parce que si vous voulez, l'attachement à un rite précis, un rite fondamental, était tellement fort que ça pouvait rendre impossible, si vous voulez, l'intégration de l'autre position. Donc, or, miraculeusement, c'est là qu'on voit que l'action du Saint-Esprit dans l'histoire est extraordinaire, c'est que miraculeusement, les apôtres ont pu prendre cette décision. Ils ont dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et donc, ce rite de la circoncision tellement, tellement important est devenu, pas optionnel, ce serait un petit peu péjoratif de dire ça, mais enfin, a été laissé à la liberté des chrétiens. Et je dis ça pourquoi? Parce que certains chrétiens continuent à le pratiquer. Par exemple, je ne crois pas me tromper en disant que les Éthiopiens, les chrétiens d'Éthiopie, les Érythréens, en tout cas les Éthiopiens et les Érythréens, pratiquent toujours le rite de la circoncision. C'est-à-dire qu'eux ont gardé ce rite abrahamique, vous voyez. Et puis les autres chrétiens, non. Mais donc voilà, je prends cet exemple-là. Voilà, voilà un cas d'évolution du rite. C'est pas qu'on a changé le rite lui-même, mais qu'on a changé la relation à ce rite, et on a changé la relation d'obligation, on a changé la contrainte par rapport à ce rite, et on a d'une certaine façon réévalué ou dévalué, les juifs diront qu'on a dévalué ce rite, les chrétiens l'ont réévalué autrement parce qu'ils ont introduit le mystère de l'universalité dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire que, quand même, d'une certaine façon, la circoncision étant masculine par définition, souligne très fort la distinction du masculin et du féminin, et d'une certaine façon consacre l'homme dans une fonction très très importante et dont laquelle la femme n'a pas accès. Bon, alors on va dire c'est une pratique de discrimination, hein, comme on dit maintenant, ça se dit beaucoup. Alors c'est vrai, c'est un peu vrai. Mais les chrétiens ont introduit autre chose, c'est-à-dire qu'ils ont repris l'héritage rituel de la circoncision, mais ils ont donné une valeur autre avec ce qu'on a appelé la circoncision spirituelle. C'est-à-dire que on retrouve ce rite dans le rite de la chrismation, l'onction du Saint-Crème, qui est faite à tous, garçons et filles, est appelée par Saint Cyrille de Jérusalem, par exemple, il est appelé circoncision spirituelle. Donc vous voyez, un cas typique d'évolution d'un rite qui est passé d'une certaine forme à une forme élargie, en gardant la même terminologie et en gardant le même sens d'alliance. Et à la place du sang qui est versé au moment de la circoncision corporelle, ce qui est donné, c'est l'huile, qui est l'huile de l'onction. Et donc oui, il y a une transposition en quelque sorte dans l'histoire de ce rite-là. Ça, je trouve ça très intéressant. Et un troisième exemple que je voulais donner pour donner l'exemple de créativité dans le domaine rituel, c'est l'exemple ce qu'on appelle l'office du couronnement dans le mariage. Les anciens, quand on lit les livres de Père Jean Meyendorff sur le mariage dans l'Église chrétienne, il me semble bien qu'il dit que le mariage à l'époque ancienne chez les chrétiens était pratiqué de manière extrêmement simple. La consécration des époux était liée à la communion eucharistique et à la bénédiction de l'évêque au sein de l'assemblée, mais sans forme rituelle particulière. On n'a pas hérité. Voilà. Alors je pense que les gens suivaient un peu des pratiques du peuple d'où ils venaient, c'est que les chrétiens qui venaient du monde juif suivaient la coutume juive du mariage et se présentaient à l'église après. Ceux qui venaient de l'hellénisme ou du monde romain suivaient ce qui se faisait dans le monde romain ou le monde grec. Bon, on n'en parlait pas trop. Mais c'était le fait de se présenter à l'église et de communier au corps et au sang du Christ après avoir reçu la bénédiction de l'évêque, c'était ça qui consacrait vraiment les époux dans leur mariage éternel. Donc il n'y avait pas le couronnement. Et d'après ce que dit Père Jean Meyendorff, le couronnement est apparu dans l'histoire de l'Église à une autre époque plus récente. Je me demande même, je vérifierai parce que je n'ai pas eu le temps de le relire, je me demande même si ce n'est pas arrivé autour du 9e ou 10e siècle dans l'histoire de l'Église. Alors, c'est extrêmement intéressant, ça veut dire que l'Esprit Saint agit continuellement dans l'Église, mais il agit dans le domaine justement pas seulement de la foi ou de la spiritualité ou de tous les autres domaine de l'activité du Saint-Esprit, mais il agit également dans le domaine rituel. Il inspire des rites nouveaux parce qu'il y a un besoin. Et c'est vrai que le rite du couronnement, après le commenter, c'est extrêmement intéressant, ça valorise considérablement la responsabilité des époux devant Dieu, et ça donne au mariage un caractère sacerdotal très important, puisque le rite du couronnement dans le mariage orthodoxe reprend des éléments importants de l'ordination de l'évêque, du prêtre et du diacre. Donc le rite du couronnement est une réinterprétation, une relecture sacerdotale du mariage. Donc c'est très intéressant. Alors bien sûr, vous allez me dire, tout n'est peut-être pas du Saint-Esprit, il faut faire attention dans les créativités liturgiques. En fait, les pères, par exemple, par rapport au rite, disent il faut se garder des innovations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qui est compétent qui est compétent pour créer des rites nouveaux. Il faut quand même faire attention. Si le rite est stable, si le rite est un élément de permanence dans l'expérience religieuse de l'humanité, qui peut être compétent? Alors en fait, ça relève de ce qu'on appelle le consensus de l'Église et des conciles. Hein, ce sont les, donc il faut, on retrouve les actes conciliaires qui ont établi que, à partir de maintenant, on ferait de telle façon. Et dire ce qui concerne la circoncision, c'est un acte conciliaire. C'est même pas l'apôtre Pierre tout seul ou l'apôtre Paul tout seul qui a pris cette décision. La décision a été prise en concile. Ce qui nous renseigne beaucoup d'ailleurs sur le comportement chrétien fondamental. Et bien qu'il n'y avait pas à l'époque, pour une question aussi grave, il n'y avait pas un évêque au-dessus des autres pour décider à la place des autres. Mais que ils ont décidé ensemble. Donc la compétence dans le domaine de la créativité liturgique, c'est une compétence conciliaire, collégiale, pour justement éviter l'arbitraire, la fantaisie et le caprice, et éviter aussi des déviations, parce qu'on peut aussi, on pourrait inventer des rites nouveaux qui seraient mauvais, qui seraient pernicieux, qui n'auraient pas de sens, ou je parle, qui seraient en contradiction avec l'ensemble de la tradition liturgique. Alors ça, c'est vrai aussi dans le domaine, par exemple, de l'Eucharistie, qui au fond part d'un vieux, d'un ancien rite juif, et ce rite-là, le rite du pain et du vin, a été magnifié d'une manière extraordinaire. C'est un cas aussi de créativité, en quelque sorte, dans le domaine rituel, où un rite qui existait est complètement dilaté pour signifier encore plus que ce qu'il a signifié jusqu'à présent, puisqu'il signifie ce que Dieu lui-même en dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais c'est pratiquement le même rite. Le rite accompli par le Christ, je dis ça, c'est un rite qui se pratiquait. Vous voyez, il n'a pas inventé un rite nouveau, mais il a donné un sens totalement nouveau à un rite qui existait. C'est-à-dire que c'était un phénomène, on va dire, de dilatation rituelle. Voilà. Donc, pour conclure sur le sujet, vous voyez que quand on parle de permanent de stabilité, on doit admettre aussi la créativité et l'action du Saint-Esprit dans le domaine rituel. Et c'est vrai également pour ce que je disais tout à l'heure, c'est la diversité et l'unité. Je reviens pas trop parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Cette diversité n'est pas un désordre. Hein, la diversité rituelle qu'il peut y avoir entre, je sais pas, l'Église. Mettons l'Église romaine, par exemple, l'Église orthodoxe, à l'époque ancienne, je ne parle pas de maintenant, hein, ce n'est pas grave, si vous voulez, c'était des rites qui se ressemblaient de beaucoup, et en tout cas, sur des rites fondamentaux, par exemple l'administration du baptême, on a toujours maintenu l'unité rituelle, c'est-à-dire que le baptême a toujours été pratiqué par la triple immersion, dans toutes les églises. Donc si vous voulez, il y a quand même des éléments, il faudrait faire un petit peu, c'est un gros travail, hein, il faudrait faire un petit peu le détail, en quelque sorte, l'inventaire, des rites fondamentaux qui ne bougent pas, qui sont conservés en signe d'unité fondamentale, comme la façon de célébrer le baptême, la sa façon de célébrer l'Eucharistie, et les rites un petit peu moins importants, si vous voulez, qui bénéficient d'une certaine capacité à évoluer. Par exemple, je ne sais pas, la façon de bénir les maisons, ça peut évoluer, ça peut différer d'un peuple à un autre, vous voyez. Et même, je vois dans le rituel orthodoxe, il y a un rituel roumain de la bénédiction de maison, qui est très beau, qui est très riche, mais qui est un petit peu différent du rituel grec de la même bénédiction de maison. Pour la bénédiction de l'eau, le grand écologe donne deux offices. La petite bénédiction, qui est la plus grande, et la grande bénédiction, qui est petite, en fait. Bref, il y a plusieurs formes, mais c'est pas très grave, parce que la bénédiction de l'eau, c'est pas quand même pas aussi important que le baptême lui-même, ou que l'Eucharistie. Donc, suivant le degré de valeur, d'importance décisive du rite, la permanence n'est pas forcément la même. Et c'est vrai que c'est une discussion avec d'autres chrétiens que les orthodoxes qui, eux, relativisent ou ont relativisé historiquement certains rites sans tenir compte du consensus général de l'Église. Et du coup, on se trouve avec des rites tellement différents qu'on ne peut pas dire qu'il y ait une unité. Vous voyez, la façon dont on célèbre nos amis catholiques romains, j'en parle avec beaucoup de bienveillance parce que c'est depuis Vatican II, les modifications apportées dans le domaine rituel et liturgique sont telles que ça introduit une fracture, en fait, dans l'héritage liturgique. C'est une fracture dans la tradition. Le simple fait on sait très bien de tourner l'autel, etc., comme on l'a dit. C'était une modification rituelle anti-traditionnelle et je suis désolé de dire que ça amène une fracture. Le problème de l'unité chrétienne, c'est pas uniquement une question d'unité dans la foi, encore que c'est fondamentalement cela, que s'il y avait unité de foi, ça serait déjà pas mal, mais c'est également une unité dans le domaine dans le domaine rituel, dans le domaine liturgique, dans la façon, la conception même de prendre, la manière même de prendre au sérieux les rites vénérables qu'on a hérités. C'est la relation, la tradition. Derrière l'idée de rite, il y a l'idée évidemment de tradition, c'est-à-dire de transmission. On transmet des rites qui ont été reçus, qui ont été reçus de Dieu, je vais y venir, c'est quand même la question la plus fondamentale, qui reçus de Dieu sont transmis, etc., de manière fidèle. Et donc si on touche à ça, ça veut dire qu'on touche à l'héritage et qu'on sort des mentalités traditionnelles. C'est une discussion. C'est vrai que la mentalité des orthodoxes que nous sommes est une mentalité qui se définit par la relation à la tradition. Et c'est ça qui fait la différence importante pour les chrétiens d'autres communautés pour qui la relation à la tradition n'a pas du tout le même sens, le même important. Je prends des exemples qui me viennent. Si je vais chez mes amis, mes collègues prêtres catholiques sont très, très gentils et bien meilleurs que moi pour beaucoup de choses. Et quand je vais chez eux, dans leur église, je vois une table avec dessus un micro, des objets tout à fait ordinaires, triviaux, et puis je vois pas l'évangile par exemple. Alors je dis à ce prêtre, mais si tu devrais mettre l'évangile sur l'autel, me dire ah bah oui, c'est une idée, pourquoi pas. Alors déjà, la manière de répondre montre que c'est au fond arbitraire, qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait l'évangile ou qu'il n'y a pas l'évangile, au fond ça n'a pas d'importance. Finalement, il met l'évangile, mais il le met sur le côté. Je dis mais non, mais elle est au milieu. Qu'est-ce que c'est l'autel? L'autel, c'est le trône du Christ, c'est le marchepied du Christ, c'est le tombeau du Christ. Donc le Christ, qui est le Christ, c'est l'évangile. L'évangile Christ, il est au milieu parce qu'il trône. Oh là là, vous les orthodoxes, qu'est-ce que vous allez chercher, etc. Donc, on a ce type de discussion, très, très, très aimable évidemment, mais qui montre que nous n'avons pas du tout le même esprit par rapport justement à ce qui est de nature rituelle et symbolique. C'est lié au symbole profond des choses. Par exemple, nous, si on met des lumières sur l'autel, si on en met une, on la met au centre, si on en met deux, on les met symétriques. Parce que ça représente des colonnes du monde, en fait. On ne met pas les lumières à gauche, parce que ça fait sympa, que c'est à la mode, ça fait Roche-Beaubois, je ne sais pas quoi, oui. Mais bien sûr, la réponse qu'on entend, c'est « Oh oui, vous les orthodoxes, vous pinaillez sur tout, vous êtes bien... » Donc c'est de la discussion finalement un petit peu délicate. Quand vous pensez que nous, les orthodoxes, on ne met jamais la Bible sur l'autel, qu'on ne met que l'évangile, c'est une exigence. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que le rite a un sens. Je vais y venir très rapidement quand même un jour. Le rite a un sens. Et donc le fait de poser l'évangile sur l'autel, c'est un rite, mais on ne pose que l'évangile. Il n'y a pas les épîtres de saint Paul. Strictement, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. C'est tout. Ça, c'est sur l'autel. Parce que ça, c'est le Christ. Ça, c'est l'icône du Christ. Qui trône sur son marchepied, c'est le Christ en majesté sur l'autel qu'on encense, qu'on porte en cérémonie, etc., dans tous les rites que vous connaissez un peu. Mais il n'y a pas l'ensemble de la Bible. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport aussi entre le rite et le contenu du rite et le sens du rite. Bon. Ensuite, une autre question très importante, je ne sais pas si je voudrais arriver quand même un quart d'heure. Une autre question très importante, c'est la question de la puissance ou de l'efficacité du rite. Alors ça, c'est une question qui est évidemment débattue aussi. Dès qu'on a une discussion entre des personnes qui ont une mentalité traditionnelle, je ne dis pas traditionnaliste, une mentalité traditionnelle, c'est-à-dire pour qui la vérité, le sens de la vie et de la mort passe par ce qui est transmis de l'expérience et de la sagesse et du savoir des anciens. Ça, c'est la mentalité traditionnelle. C'est-à-dire que les anciens nous ont transmis telle chose. Hein. Et puis, en face de ça, il y a des personnes donc, qui n'ont pas une mentalité traditionnelle. Donc, on a des discussions à ce sujet-là, et donc, il y a des personnes qui vont nier la puissance du rite, et des personnes qui vont, au contraire, affirmer la puissance du rite. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Y a-t-il ou non une puissance du rite? Y a-t-il ou non une efficacité du rite? Alors, ça, je crois que cette question est extrêmement importante. Peut-être pour une mentalité traditionnelle, mais alors, je dirais, si vous voulez, en amont ou en dehors ou à côté de l'expérience chrétienne, parce que chez nous je pense que c'est quand même un petit peu différent, dans une mentalité traditionnelle en Inde par exemple, ce qui est rapporté par Mircea Eliade dans la description qu'il fait des différentes religions, pour une mentalité traditionnelle ancienne, archaïque un peu, le rite soutient le monde. C'est que sans rite, il n'y a plus de cosmos, il n'y a plus rien. Le rite est le pivot du monde. Et c'est raconté dans les Védas, c'est raconté dans tous les grands récits traditionnels et symboliques. Voilà, le rite est le pivot du monde. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité du rite, je vais dire, peut-être, je vais le dire tout de suite d'ailleurs, et qui vient du fait que le rite est une action accomplie en obéissant à la divinité. Et que le rite est une reproduction ou une réitération, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une action accomplie par la divinité. Et c'est parce que justement le rite est intégré à une action divine, créatrice ou ordonnatrice du monde, qu'il a cette efficacité. Il ne l'a pas par lui-même en tant que geste, si vous voulez, mais là en tant qu'il est un agir divin. Il est un geste. Tout rite, un rite sérieux, un vrai rite profond, fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'un rite fondamental pour une tribu de Mongolie orientale? Eh bien, c'est la façon de construire l'habitation. Ben, cette façon de construire l'habitation, on l'a construit comme les dieux ont construit au début. Et c'est les dieux. Les dieux ont construit le monde de cette façon. Eh bien, nous, on fait notre maison de la même façon et on reproduit l'action des dieux à l'origine. Vous voyez, c'est assez, très, très, très fondamental, ça. Et alors, effectivement, donc le rite soutient le monde dans ce sens-là. Alors, est-il efficace par lui-même? En fait, non, ça ne veut rien dire. La question de l'efficacité du rite par lui-même, ça, c'est encore autre chose. On tombe dans des formes de déviation. Il ne peut pas y avoir de rite sans divinité. Je ne parle pas de Dieu tel qu'il nous est connu par la Bible, mais je parle de la divinité ou les dieux, enfin, le divin au sens large dans les différentes religions. Le rite est essentiellement une action divine opérée par l'homme. Voilà. Une action divine opérée par l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne fait rien d'autre que agir pour Dieu, avec Dieu, ou être l'instrument de l'action divine dans le cosmos. D'où la puissance et l'efficacité du rite. Effectivement. Effectivement. Ensuite, c'est lié aussi à d'autres, d'autres dimensions. Alors, dans le christianisme, c'est lié à quelque chose de fondamental. C'est que d'une part, les rites que nous accomplissons sont des commandements divins, et d'autre part, les rites que nous accomplissons sont accompagnés d'une parole divine, et troisièmement, les rites que nous accomplissons sont accomplis par la prière de ceux qui les accomplissent, et enfin, ce qui sous-tend tout cela, c'est la foi. Donc là, c'est bien, tout à fait autre chose. Donc l'efficacité du rite, chez nous, les chrétiens, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque le rite est coordonné à tout cela, au commandement divin, que j'ai dit, à la prière, à la parole et à la foi. Au moins, j'oublie peut-être quelque chose, au moins ces quatre piliers, là, si le rite est privé d'un de ces quatre piliers, c'est-à-dire un rite fait en l'absence de la foi, est un rite qui perd sa force. Un rite qui serait accompli sans prière est un rite qui perd sa force. Un rite qui ne serait pas un rite commandé par Dieu est un rite qui serait purement humain, etc. Alors, quels sont les rites commandés par Dieu? Nous les connaissons. Je prends des exemples aussi. Eh bien, par exemple, l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? C'est typiquement un rite. C'est-à-dire Dieu qui dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Vraiment pas trouvé mieux comme exemple. Ça, c'est absolument spectaculaire, parce que c'est le cas même où la divinité en personne s'exprime. Et c'est même pas comme si on reproduisait quelque chose que la divinité a accompli, comme la création du monde. Bah, Dieu n'a pas dit « Vous ferez vos maisons comme ça, comme j'ai fait le monde ». Mais les hommes le font, quand ils font une maison, une cabane ou une hutte, ils la construisent comme les dieux ont dans le principe organisé la création. Mais là, c'est encore plus fort, c'est que c'est Dieu lui-même qui dit faites ceci en mémoire de moi. Simple. Voilà. Ça, c'est vraiment ça. C'est un rite. Un rite au sens le plus fort du mot, c'est qu'il est commandé par la divinité. Il suppose la foi dans le Christ. Il est accompagné d'une parole qui est celle du Christ. Et il suppose la prière, parce que la prière, c'est la coopération avec Dieu dans ce qu'il veut que l'on fasse. La plupart des exemples qu'on a, je reviendrai en parlant des sacrements, sont des mêmes types. Par exemple, le rite du déliment, de l'absolution. Alors là aussi, je trouve des gens pour discuter ça, ou dire, mais il y a qu'à laisser chez le psychologue, c'est pareil, etc. On entend des sornettes, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut entendre quelquefois. Mais non, ça n'a aucun rapport. L'absolution, c'est un rite donné par Dieu lui-même. C'est extrêmement simple. Le Christ, après sa résurrection, est apparu aux disciples, a soufflé sur eux et leur a dit « Les péchés que vous délirez seront déliés, les péchés que vous délirez pas seront pas déliés. Remettez les péchés. » C'est un commandement précis. Il y a un ordre divin précis qui donne, qui fait exister un rite. Alors c'est vrai que c'est moins clair pour d'autres, par exemple justement le mariage dont je parlais tout à l'heure, le Christ s'est rendu présent à Cana de Galilée, et donc le rite du mariage est issu du modèle divin. C'est-à-dire comme le Christ a été présent à Cana de Galilée, de même on considère qu'il est toujours présent dans un mariage et on continue à le faire. Vous voyez, c'est un autre modèle de constitution rituelle. Mais c'est vrai que le Christ n'a pas dit à Cana de Galilée, maintenant, à partir de maintenant, vous marierez les gens de telle façon, c'est vrai. De même pour l'onction des malades, autre sacrement qui est très très rituel, nous le faisons en imitant une action de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que faisait Dieu dans l'Évangile? Il oignait, il guérissait, il mettait de la boue sur les yeux pour rendre la vue à l'aveugle, etc., etc. Alors ce sont ces actions divines que nous voyons dans l'Évangile que nous imitons, que nous réitérons, donc on est bien dans le domaine du rite, que nous réitérons dans le sacrement de l'onction des malades. On pourrait trouver d'autres exemples. En ce qui concerne le baptême, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, le baptême, par exemple, il est fait sur le modèle. Le Christ a quand même dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc il y a quand même une injonction divine. Il est dit d'injonction. Une bonne partie des rites, les rites les plus fondamentaux, les plus fondateurs, dépendent d'une injonction divine. Un commandement, un ordre. Le mot injonction est un mot assez important qui ne suppose pas d'exercice de pouvoir. Alors que dans le mot commandement, on a l'impression qu'il y a une espèce de pouvoir qui s'impose. Non, une injonction, c'est un appel et une demande très forte qui fait qu'on passe à l'action. Voilà. Donc ça, c'est. Alors là, ici, on voit très bien qu'est-ce que c'est que. Pourquoi est-ce qu'on communie au corps et au sang du Christ? C'est parce qu'il y a derrière ce rite la volonté divine. Faites ceci en mémoire de moi. C'est tout. Et on ne discute pas ça. Donc c'est le fait que nous accomplissions une action par obéissance à la divinité donne à cette action toute sa force, toute sa puissance et toute sa réalité. Et dans l'absolution, c'est pareil. Pourquoi est-ce que c'est tellement extraordinaire de pouvoir avoir le pardon de ses péchés? C'est que c'est pas de caractère psychologique ou moral, c'est que il s'accomplit, on pourrait appeler un miracle, par le rite de l'absolution, et ce miracle consiste au fait qu'on est délié de ses péchés, qu'on est pardonné par Dieu, etc. Donc il y a bien, et nous, dans ce cadre-là, nous pensons bien qu'il y a une efficacité du rite. Vous comprenez? Vous voyez bien en quel sens. Alors après ça, puis là je m'arrête là-dessus, c'est vrai que les déviations, eh bien il faut les dénoncer, on est bien d'accord là-dessus. Ce qu'on appelle ritualisme, oui évidemment, le ritualisme c'est l'idolâtrie du rite, c'est idolâtrer un rite en pensant que... là aussi on entend des choses extraordinaires, penser que par exemple un rite peut être accompli par un non-croyant, par exemple, c'est indéfendable. Le rite suppose la foi, suppose la coordination à la divinité. C'est très très grave. On tombe dans le. Et donc très rapidement, on arrive non seulement au formalisme, le formalisme qui est le respect des formes pour elles-mêmes, le fait de donner bonne conscience en ayant respecté les formes, qui est une attitude très très décadente par rapport au rite, mais qui n'enlève rien à la valeur du rite lui-même. Hein. C'est l'homme, lui, qui est dans le péché. Le ritualisme, ce n'est pas une défaillance du rite, c'est une défaillance de l'homme. Hein. Et le formalisme, c'est pareil, c'est une défaillance de l'homme, c'est pas une défaillance du rite. Le rite lui-même, il est très bon. Et puis, il y a une déviation qui est très très grave aussi, mais qui touche un petit peu à ces deux premières déviations, c'est ce qu'on appelle la magie. Alors, la magie, c'est quelque chose de très très grave, parce qu'en fait, c'est une action rituelle dans laquelle l'être humain s'arroge le pouvoir divin. Ça, c'est quelque chose qui est très très grave, parce que tout à l'heure je disais que le rite doit être coordonné à la divinité, mais là il s'agit d'une action qui est accomplie en supplantant la divinité. Alors on nous dit, mais il y a de la magie noire, de la magie blanche, enfin, ça c'est prendre le mot magie au sens général, je ne sais pas, mais la magie telle qu'elle se pratique dans certains peuples, qu'elle peut se pratiquer si vous voulez, c'est-à-dire c'est l'utilisation d'une certaine puissance ou croire qu'on utilise une certaine puissance et l'utiliser sans Dieu, pas forcément contre Dieu, mais en se mettant à la place de Dieu, en prenant la place de Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de satanique dans toutes les formes de magie. Je ne veux pas offenser personne, mais il faut aussi appeler un chat un chat. Quelle est l'action du diable? Est principalement une action de supplantation. Le diable à l'origine est celui qui a voulu être Dieu à la place de Dieu et être un Dieu pour l'homme. Et c'est ce qu'il cherche à faire continuellement. Donc, je conclue là-dessus, pour dire qu'on est bien, nous sommes bien conscients dans notre attachement au rite et la valorisation, et la valeur que nous attachons au rite, nous sommes bien conscients des déviations, et ça fait partie aussi de l'ascèse chrétienne, de se purifier de façon à accomplir les rites en toute conscience, en toute sainteté, avec foi, et avec obéissance à Dieu. Voilà, je vous remercie. Ben les messages, tout le monde, voilà. Père Joël est toujours très présent. Et ça, il dit que la compétence doit être validée. Oui, c'est ça, les données et validées par l'assemblée ecclésiale durant la liturgie. C'est vrai que je crois que je l'ai dit un petit peu. Hein, la compétence, elle ne naît pas d'elle-même. Il y a une validation, le baptême, par exemple, qui est l'acquisition d'une compétence rituelle. Ben le baptême doit être célébré dans l'assemblée. C'est ça, c'est vrai aussi, c'est ça qu'il veut dire, Père Joël. C'est que si on continue à faire des baptêmes le dimanche après-midi à 5h, quand il n'y a personne et que la famille pour célébrer, ça affaiblit la validation. Alors si le baptême est célébré dans la liturgie le dimanche matin en présence de l'ensemble du peuple, eh bien il y a une validation de la compétence. C'est la même chose pour le mariage. Il faut arrêter de faire des mariages le samedi après-midi, c'est absolument pas le moment. Le mariage doit être célébré le dimanche dans la liturgie. Et là, c'est pareil, il y a une validation, c'est ça que veut dire Père Joël, par l'assemblée ecclésiale, qui est une assemblée sacerdotale. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. De toute façon, Père Joël fait toujours des interventions super intéressantes. Et l'autre, Sandrine propose de nous fournir le sens des mots hébreux pour dire rite. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, je vais lui dire oui. Il paraît qu'il y a trois mots en hébreu pour dire rite. C'est, oui, le sens des mots, vous savez, c'est formidable. Voilà, terminé.